إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons commencer aujourd'hui le premier chapitre de ce livre. En fait, dans certaines éditions, nous allons trouver que c'est le deuxième chapitre, et dans certaines que c'est le premier chapitre, en considérant que ce que l'on a fait la dernière fois était une introduction du Cheikh, rahimahullah. Ce chapitre qui est nommé du mérite du tawhid et des péchés qu'il permet d'expier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dans le sens des versets: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc ce chapitre, barakallahu fikum, dans ce chapitre, le cheikh va citer quelques vertus parmi les vertus du tawhid. Mais en vérité, il y a beaucoup plus de vertus que cela. Il y a des épîtres entiers qui ont été écrits par nos éminents savants dans lesquels ils ont réuni les vertus du tawhid. Mais ici, le cheikh en cite quelques-unes. Il commence en premier lieu par ce verset qui est dans Sourate Al-An'am, verset 82, le verset des, comme ils disent, la sourate des bestiaux. Et il montre en fait, à travers ce verset et les hadiths qui sont cités, que plus le serviteur redouble d'efforts dans la réalisation du tawhid, et plus il est susceptible d'entrer au paradis, quels que soient ses actes. Donc dans ce verset, dans Sourate Al-An'am, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. L'injustice qui est citée ici, c'est l'association, le polythéisme. Car, comme il est venu dans le hadith sahih, Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce verset, qui parut difficile à appliquer aux yeux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où ils s'exclamèrent: ô prophète d'Allah, qui de nous n'a jamais commis d'injustice envers lui-même? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. L'injustice ici désigne le polythéisme. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, c'est-à-dire Luqman alayhi salam, donc qui est dans le Coran, quand il dit: l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc dans Surat Luqman, verset 13. Donc le sens du verset, barakallahu fikum, correspond au sujet du chapitre. C'est-à-dire que ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par du polythéisme, que ce soit du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur, ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit: plus la personne s'éloigne de l'injustice. L'injustice, elle est de plusieurs sortes. L'injustice envers Allah, qui est voulu ici dans ce verset, c'est-à-dire le fait de lui donner des associés alors que c'est lui qui nous a créés. Le shirk. Après, il y a l'injustice de la personne envers lui-même, c'est-à-dire quand il fait des péchés liés à sa propre personne, des manquements. L'injustice de la personne envers les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On commence
commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a des devoirs envers lui. Puis les prophètes en général, et les compagnons, et les savants, et les parents, et les proches, etc. Tous les gens. Donc plus la personne s'éloigne de l'injustice, de tout type d'injustice, en commençant par la plus grande injustice qui est le polythéisme, majeur et mineur. Et plus la personne trouvera la sécurité et sera bien guidée. Et par contre, plus la personne sera injuste envers Allah, en lui donnant des associés, que ce soit par le polythéisme majeur ou mineur, ou bien injuste envers lui-même, ou injuste envers les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et plus il sera égaré et il sera dans la peur. Cette sécurité, c'est une sécurité en ce bas monde. La personne se sent en sécurité, son cœur est tranquillisé. Une sécurité au moment de sa mort, quand les anges vont venir le voir, vont venir les voir et leur dire de ne pas avoir peur et de ne pas s'attrister. Une sécurité dans sa tombe, une sécurité le jour du jugement dernier et la sécurité en entrant au paradis en étant préservé de l'enfer. Ceci, plus la foi est complète, plus le tawhid est complet. Tawhid complet, c'est celui qui permet de s'éloigner des péchés grands et petits. Et même quand la personne fait une erreur, il s'en repent rapidement. Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité le hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque atteste qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa, Jésus comme ils traduisent, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam et une âme venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, entrera au paradis quels que soient ses actes. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque atteste qu'il n'y ait nulle divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Il ne s'agit pas ici de la simple prononciation, mais c'est de prononcer cette attestation de foi avec les conditions de validité de la ilaha illallah. Sincèrement, avec véracité, avec la soumission, l'acceptation, etc., etc. Les 8 conditions ou 9 que les savants citent. D'ailleurs, je vous enjoins à écouter pour cela une conférence que j'avais donnée sur les conditions de la ilaha illallah et les annulatifs de l'islam, qui n'est pas très longue, et ces points-là, ils sont résumés. Donc, il ne s'agit pas seulement de la prononcer, mais de la prononcer avec certitude, de la prononcer avec sincérité, de la prononcer avec véracité, de la prononcer avec l'acceptation, de renier tout ce qui la contredit, etc. De mettre en pratique les conditions de la ilaha illallah intérieurement et extérieurement. Et non pas juste prononcer comme ça avec la langue. Car prononcer la ilaha illallah avec la langue, sans la certitude du cœur, sans la soumission, sans l'obéissance, sans la sincérité, sans la véracité, sans rejeter toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas la ilaha illallah. Cela ne lui sera d'aucune utilité. Car les hypocrites, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne sont pas véridiques dans leur attestation. De même, Pharaon, il a reconnu qu'il n'y a nulle divinité à part celle de Bani Israël ou celle de Moussa, c'est-à-dire Allah, tabaraka wa ta'ala, nul dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il l'a dit juste avec sa langue, au moment où il a vu qu'il allait être noyé. Donc, le dire juste avec la langue, ce n'est pas utile auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est utile dans ce monde, c'est-à-dire celui qui le dit avec sa langue, dans ce monde, et qui ne nous montre pas un acte clair qui annule son islam, on le traite comme un musulman. On juge selon les apparences. Comme le hadith de Usama ibn Zayd, où une personne a dit la ilaha illallah, et que Usama l'a rejoint et l'a tué car c'était en plein combat. Et il a cru qu'il l'avait dit juste pour se protéger de son épée, au moment où il a levé l'épée sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Usama, est-ce que tu as fendu son cœur pour voir est-ce qu'il l'avait dit avec véracité? Que diras-tu devant Allah contre la ilaha illallah? Que diras-tu devant Allah contre la ilaha illallah? Donc nous on juge selon les apparences. Quelqu'un qui nous montre la foi et qui ne fait pas un acte annulatif de l'islam clair et sans équivoque, nous jugeons de son islam et son compte incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre auprès d'Allah, elle ne sera pas utile tant qu'il n'a pas dit la ilaha illallah avec les conditions. Ici, dans le hadith de Ubada ibn Samit, c'est ça qui est voulu. Quiconque atteste qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Muhammad est son serviteur et son messager, que Isa est le serviteur d'Allah. Donc premièrement, en disant que Muhammad est son serviteur et son messager, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur serviteur, contrairement à ce que disent certaines sectes qui ont ressemblé aux chrétiens, qui disent que c'est une part d'Allah, certaines sectes qui s'affilient à l'islam. Et c'est un messager, donc c'est un serviteur qu'on ne doit pas adorer. Et c'est un messager, nous devons accepter tous ceux dont il nous informe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Isa est le serviteur d'Allah. Donc ceci est une réponse aux chrétiens. Une partie d'entre eux ont dit, il est Allah lui-même. D'autres ont dit, c'est le fils d'Allah. D'autres ont dit, il est le troisième de trois, la Trinité. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à cela dans le Coran. Ici, dans le hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa est le serviteur d'Allah. Et Allah ta'ala dans le Coran al-Karim a dit, certes, l'exemple de Isa auprès d'Allah est comme l'exemple de Adam. Il l'a créé de terre, puis il lui a dit, sois, et il a été. Ça, c'est une réponse aux chrétiens. Et c'est une réponse aux juifs aussi, qui eux ont insulté Isa alayhi salam, et ont dit qu'il est né d'une mère dévergondée. A'udhu billah. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a répondu aux deux extrêmes, à ceux qui l'ont pris en divinité en dehors d'Allah, et à ceux qui l'ont insulté et qui ne l'ont pas respecté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que Isa est le serviteur d'Allah, son messager, en disant son messager, il a répondu aux juifs qui l'ont insulté. Sa parole qu'il envoya à Maryam, sa parole, c'est-à-dire c'est pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand Allah il parle comme le Coran. Sa parole ici ça veut dire kun, soit. Quand Allah il a dit soit, Isa a été, comme cela a été expliqué dans le verset plus haut. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Il l'a créé de terre, puis il lui a dit « Sois » et il a été. Comme c'est venu dans le verset 59 de Surat Ali Imran. Donc, quand ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sa parole qu'il envoya à Maryam », c'est-à-dire le fait qu'Allah a dit « Kun ». Allah il lui a dit « Sois ». C'est ça sa parole. « Et une âme venant de lui »« Wa ruhum minhu » c'est-à-dire une âme parmi les âmes qu'Allah a créées, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça vient dans le même sens que le verset dans Sourate Al-Jathiyah, verset 13, où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَ Et il vous a soumis tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre venant de lui, c'est-à-dire une grâce venant de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est dans le même sens, c'est-à-dire une création, une âme qu'Allah a créée parmi les âmes qu'il a créées venant de lui, subhanahu wa ta'ala, de sa création. Et que le paradis est véridique, et que l'enfer est véridique. Il entrera au paradis, quels que soient ses actes. Ce hadith est une réponse aux khawarij, qui disent que celui qui fait des grands péchés, c'est un mécréant. Et aux mu'tazila, qui disent que celui qui fait des grands péchés, dans ce monde, il est ni croyant, ni mécréant. Il est dans une station intermédiaire entre les deux, et dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. On voit dans ce hadith que celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement, avec les conditions qu'on a citées, même si il lui arrive de faire des péchés, même des grands péchés, il pourra passer par l'enfer, mais il n'y restera pas éternellement. L'enfer ne sera pas sa demeure éternelle. Un jour ou l'autre, il entrera au paradis pour y rester éternellement. Et c'est ça le sens, il entrera au paradis, quels que soient ses actes. À condition, bien sûr, qu'il n'annule pas cette parole. La ilaha illallah, par un acte, par une parole, par une croyance ou par un doute. Car quelqu'un, il peut annuler sa foi par une de ces quatre choses. Par le doute, par une parole, par un acte ou par une fausse croyance. Puis, Al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith de Itban. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y ait pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, ne cherchant par là que le visage d'Allah. Donc ici déjà il a cité dans ce hadith une condition parmi les conditions de la ilaha illallah qui est quoi ? La sincérité dans cette attestation de foi. Donc, quand une personne, elle recherche la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en prononçant cette parole, qui est la formule du tawhid, tout en remplissant ses conditions et en respectant ses implications, Allah, tabaraka wa ta'ala, traite cette personne avec miséricorde et lui donne ce qu'il lui avait promis, à savoir qu'il la préserve, cette personne, contre le feu de l'enfer. Et ceci est une immense faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la personne qui se présente devant Allah tabaraka wa ta'ala avec le tawhid, en ayant délaissé son contraire qui est le polythéisme, mais en ayant toutefois commis quelques péchés et transgressions, et qui est morte sans s'être repentie de ses péchés, son sort dépendra de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtie par sa justice, puis après il le sortira du feu de l'enfer, après que cette personne y ait passé un certain temps. Et si Allah veut, il lui pardonne et il l'interdit au feu de l'enfer de le toucher initialement et il rentre directement au paradis par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala sont entre sa justice et sa miséricorde. Il n'y a aucune injustice dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait. Puis il a cité le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa alayhi salam a dit, Seigneur, enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit, dis ô Moussa, la ilaha illallah, il n'y a nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Moussa s'écria, Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah dit alors, ô Moussa, si les sept cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les sept terres étaient posées sur un des plateaux d'une balance, et que la parole la ilaha illallah était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée cette parole. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim qui l'a authentifié. Et Al-Dhahabi, il a été d'accord avec Al-Hakim sur son authentification, ainsi que Ibn Hajar. Mais plusieurs savants du hadith ont dit que ce hadith n'était pas authentique. Quoi qu'il en soit, il y a une version où c'est Nuh alayhi salatu wassalam qui dit à son fils des paroles similaires, et ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmad et il est authentique lui. Des paroles similaires, c'est-à-dire du fait que la ilaha illallah c'est beaucoup plus lourd que les cieux et la terre. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, c'est un argument en faveur du fait que si l'on se présente avec des péchés qui ont atteint le poids des cieux et de ses occupants, en plus du poids de la terre, alors la parole la ilaha illallah, elle aurait plus de poids et elle serait encore plus lourde que cela. Et ça, c'est le même principe qu'on trouve dans le hadith de l'Bitaqa. Le hadith de l'Bitaqa, c'est un hadith authentique rapporté par Ahmad et Tirmidhi ibn Majah et le Hakim dans le Mustadrak, le hadith de la carte, cette carte sur laquelle il y a écrit la ilaha illallah. Mais cette grande faveur, elle est, comme on a dit, à celui qui concrétise le tawhid et qui dit cette parole de tawhid avec sincérité et véracité et certitude et soumission et qu'elle pratique ce qu'elle implique, etc. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté que Tirmidhi a dit dans un hadith qui est considéré acceptable d'après Anas, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés pesant presque autant que la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Donc ce hadith, c'est un hadith Qudsi. Quand on dit Allah le Très-Haut a dit, c'est dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah le Très-Haut a dit. Les paroles et le sens viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il est différent du Coran dans certains points, comme le fait qu'on ne le récite pas dans la salat, que dans le hadith al-Qudsi, tout n'est pas rapporté d'un très grand groupe vers un très grand groupe. Dans les hadiths Qudsi, il faut vérifier, certains sont da'if, sont faibles, d'autres sont sahih, à la différence du Coran qui est rapporté d'un très grand groupe à un très grand groupe à un très grand groupe, sur lequel donc on a une certitude totale. Puis, le cheikh cite les points à retenir de ce chapitre. Il dit, premier point, l'immensité de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxième point, le tawhid a une grande récompense auprès d'Allah. Troisième point, en plus de cela, le tawhid efface les péchés. Quatrième point, l'explication du verset de surat Al-An'am, les bestiaux. Cinquième point, méditer sur les cinq composantes de l'attestation dans le hadith de Ubadah. C'est le hadith qu'on a vu, le premier hadith de Ubadah ibn Samit. Sixième point, si tu joins ce hadith à celui de Itban et au suivant, le sens de la parole « La ilaha illallah » t'apparaîtra clairement, de même qu'apparaîtra l'erreur de ceux qui ont été trompés et dupés. Donc il veut parler ici des murji'a, ceux qui disent « Tu dis juste « La ilaha illallah » avec la langue ». C'est bon, tu es croyant. Ça c'est roulat al-murji'a. Ou bien ceux qui disent qu'il suffit d'avoir la croyance dans le cœur. Ou ceux qui disent qu'il suffit d'avoir la croyance dans le cœur et de le dire avec la langue. Mais tu n'as pas besoin d'agir avec ton corps. Tu n'as aucun acte à faire. Donc, le cheikh dit que quand on réunit tous les hadiths qui parlent de cela, on voit bien que c'est une réponse à ceux qui se sont fait tromper par Shaitan. Donc les Murji'a et les Jahmiya, ils sont à l'opposé des Khawarij. Les Khawarij qui disent que celui qui fait des grands péchés, il va éternellement en enfer. Eux, les Murji'a, ils disent non, il suffit de reconnaître. Celui qui reconnaît Allah, c'est bon, c'est un croyant complet, il a la foi complète. Pour eux, la foi de Jibril et la foi de Pharaon, c'est la même. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Pharaon, il a la foi. Allahu musta'an. Septième point, souligner la condition mentionnée dans le hadith de Itban. Donc la condition, c'est quoi? Ne cherchant par cela que le visage d'Allah. Huitième point, les prophètes ont besoin qu'Allah leur rappelle le mérite de la parole « La ilaha illallah ». Donc si les prophètes, on leur rappelle le mérite de cette parole, qu'allons-nous dire de nous? On a besoin toujours de se rappeler le mérite du tawhid et de la parole de tawhid. Neuvième point, souligner le fait que cette parole pèse plus lourd que toutes les créatures, bien que beaucoup parmi ceux qui la prononcent verront leur plateau de bonnes actions plus légère que l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises actions et que leur parole « La ilaha illallah » elle était manquante. C'est-à-dire même si elle leur suffit pour pas rester en enfer éternellement, mais elle ne leur suffira pas pour peser plus lourd. C'est-à-dire qu'il y a un manquement dans cette parole. Dixième point, il est stipulé dans le texte que les terres sont au nombre de sept comme les cieux. Onzième point, les cieux ont des occupants, comme il est venu dans le hadith. Douzième point, l'affirmation des attributs divins, contrairement au Ash'arit. Ici, quand il dit l'affirmation des attributs divins, il vise le hadith de Itban. Le visage d'Allah, donc, le fait d'affirmer qu'Allah tabaraka ta'ala a un visage, contrairement à ce que disent Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Kullabiya, Al-Asha'ira, Al-Maturidiya. Treizième point, si donc tu prends connaissance du hadith d'Anas, tu te rendras compte que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Itban, à savoir Allah a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y ait nulle divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, cherchant par cela le visage d'Allah. Donc il dit, ce hadith désigne le délaissement du polythéisme et non la simple prononciation de cette parole avec la langue. Quatorzième point, méditer que Isa et Mohammed soient mentionnés ensemble comme étant des serviteurs et des messagers d'Allah. Quinzième point, connaître l'état particulier de Isa comme étant la parole d'Allah. C'est-à-dire le fait qu'Allah lui a dit « soit » et il a été. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Seizième point, savoir qu'il est une âme venant d'Allah, c'est-à-dire une âme qu'Allah a créée, venant de lui, comme il est venu dans le hadith. 17e point, connaître le mérite de croire au paradis et à l'enfer. 18e point, connaître la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels que soient ses actes. 19e, savoir que la balance comporte deux plateaux, comme il est venu dans le hadith. 20e, la mention faite du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous pouvez le remarquer, les points que Cheikh Mohammed bin Abdullah Wahhab cite, ce ne sont pas des explications détaillées. Il reprend en fait des mots du hadith, il les extrait, ou il y rajoute juste un éclaircissement pour que le sens voulu des textes soit éclairci pour le lecteur, tout simplement. Et ça, ça montre sa grande et sa profonde science, c'est-à-dire qu'il ne s'éloigne pas des textes. Il explique les textes par les mêmes mots du texte, sauf qu'il les isole en points détaillés, pour qu'on puisse y voir plus clair. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.